Il est 15h et c'est l'heure de l'émission des lecteurs sous les toits. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathanaël et Sylvie qui vont ouvrir la partie. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonne oui, année.
Alors, bonne année à tous. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas que Nathanaël et moi, il y a également autour de nous Chantal, Claudine et Michel. Nous vous parlerons aujourd'hui de nos derniers coups de cœur, dont L'amour et les forêts d'Éric Reynard, qui a fait l'objet d'un débat au sein de notre comité de lecture. Mais tout d'abord, nous voulions commencer par
vous faire part d'articles d'auteurs que nous avons reçus aux correspondances et aux apéros littéraires, d'auteurs qui ont réagi donc suite aux événements qui ont eu lieu la semaine dernière. Tout d'abord, nous allons vous lire un article de Sabri Loata que nous avions déjà reçu donc en 2012 pour ses deux premiers tomes de sa saga « Les Sauvages ». Cet auteur issu de l'immigration avait imaginé bien avant Houellebecq un président beur, victime, lui, d'un attentat alors qu'il vient à peine d'être élu.
Alors l'article s'intitule « L'article est paru dans
Le Monde ».
Dans Le Monde qui a suivi ces douloureux attentats, ces douloureuses exécutions, et s'intitule « Nous étions des millions, la tête haute ».
Dimanche 11 janvier, j'ai chanté la Marseillaise, j'ai applaudi la police républicaine, j'ai dit « Je suis David, je suis Ahmed », j'ai même dit « Je suis Charlie », alors que je ne l'avais jamais acheté, ni même entrouvert. Pas ma génération, pas mon humour. Mais enfin, peu importe, je passe la moitié de ma vie consciente un stylo à la main. Je me suis dit donc naturellement mêlée au peuple de Paris où j'étais de passage et j'en suis fière.
J'en suis fière parce que j'ai commencé par avoir honte. Les hommes surarmés qui ont fait irruption dans cette salle de rédaction étaient nés dans le même pays que moi. Ils avaient mon âge et des prénoms semblables aux miens. Avant la marche, sur le boulevard Sébastopol, un adolescent a surgi d'un restaurant de kebab, comme un diable de sa boîte. Il a hurlé dans notre direction. « Je suis pas Charlie, je suis Kouachi. »
Il me ressemblait, ce petit con. Il s'appelait peut-être Sabri. Et alors ? Je n'avais pas à me solidariser de lui et de son ressentiment. Moi, j'étais Charlie, Ahmed, David, la police. Un simple plus un dans la foule grave et digne. Une feuille supplémentaire dans le gros chou-fleur de la réconciliation nationale.
Ces dernières années, j'ai écrit les trois premiers tomes j'ai écrit un roman en quatre tomes, dont les trois derniers ont paru, impossible de terminer le quatrième, pollué par le climat d'apocalypse. C'est un thriller politique, une saga familiale, un conte de fées qui raconte l'élection en France d'un président arabe musulman, laïque, mélomane, formé dans nos meilleures écoles, un homme juste aux idées généreuses, qui se fait tirer dessus par un gamin qui pourrait très bien être le diablotin du kebab. Le président élu sombre dans le coma, en émerge diminué, affaibli. Il y a des rebondissements. Et à la fin, Chaouch, c'est le nom de mon Obama français, prononce un discours courageux, fédérateur et progressiste.
Je n'ai jamais réussi à écrire la première ligne de ce discours. Et mercredi 7 janvier, j'ai eu tellement honte. L'horreur terroriste pour de vrai. Et moi qui avais fait joujou avec mes tanks fictifs de la BRI, imaginez des guerres fictives entre les services terroristes et antiterroristes. Il y a environ un an et demi, j'ai personnellement baissé les bras. Je me suis sentie FSNA, français de souche nord-africaine. Impuissant face à la ségrégation pernicieuse que je voyais s'opérer à l'ombre de nos vieux principes fanés. Une France balkanisée, chacun ne s'adressant plus qu'à ses pairs. Il était hors de question que mes futurs enfants grandissent dans un pays où ils seraient des arrière-petits-fils d'immigrés algériens enjoints eux aussi de s'intégrer. Je n'en pouvais plus des regards méfiants sur ma barbe, des blagues racistes qu'il fallait encaisser avec le sourire.
Je suis partie. Je reviens pour les fêtes. Et c'est bizarre, mais depuis dimanche, Je sais au moins que je vais réussir à finir mon bouquin, parce que 3 jours après le premier coup de feu, nous étions des milliers, des millions, la tête haute, convaincus d'avoir depuis longtemps renoncé à vivre ensemble, mais aussi conscients de n'avoir pas d'autre choix dorénavant que de nous efforcer d'y remédier. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de cette marche, mais je veux dire merci à mon pays natal, merci de s'être réveillé.
Un autre auteur, donc Éric Reynard, qui avait été reçu aux correspondances, dont nous allons vous parler tout à l'heure de son roman, a lui aussi réagi sur les attentats de Charlie Hebdo alors qu'il était au Japon, dans un article aux Inrecuptibles. Chantal va nous en donner lecture.
Donc j'ai juste gardé quelques traits de son intervention pour ne pas ennuyer quand même les auditeurs. Mais ça me semble super important et extrêmement sensible, son article. J'étais au Japon, sur l'île de Naoshima, quand l'horreur est survenue, inconcevable. J'en ai pris connaissance sur mon iPhone, dans ma chambre d'hôtel, en consultant les applications de Libé et du Monde. Anéanti. J'ai alors souffert d'être si loin de Paris. Jamais je n'avais senti à ce point dans mon existence que mon pays était la France, et que j'étais français, et que là-bas était ma place, là-bas et nulle part ailleurs, en ces moments de terrible souffrance. Je n'ai pas été le seul à éprouver cette sensation, si j'en juge par l'ampleur du mouvement qui s'est spontanément formé pour témoigner l'attachement, qui est le nôtre. À Osaka, vendredi après-midi, reclus dans ma chambre d'hôtel, branché sur BFM TV, j'ai appris que des rassemblements avaient lieu chaque jour place de la République pour rendre hommage aux victimes de Charlie Hebdo et qu'une inédite et bouleversante union nationale était en train de prendre corps. Je me suis dit que le pays était en train de se donner à lui-même spontanément, comme s'il avait trouvé en lui des ressources insoupçonnées et qui le libérait d'une amertume, de ses complexes et de ses peurs irrationnelles. Une sublime leçon de hauteur et de responsabilité. Je me suis dit que ce drame avait permis à notre peuple une fulgurante prise de conscience, et que soudain, fort de cette cohésion, nous avions tous compris, tous bords confondus, qu'il fallait s'unir autour d'un principe impérieux, dépasser la haine ordinaire et le régime de division continuelle qui régissent la vie de notre pays depuis plusieurs années. C'est une lumière inouïe qui vient de se répandre sur notre territoire et dans les âmes de nos concitoyens. Espérons seulement que cette lumière ne soit pas celle d'un flash, mais d'une nouvelle connaissance, de nouvelles espérances, d'un amour de soi enrichi et renouvelé, d'une nouvelle façon d'envisager l'avenir et notre identité, d'envisager ce qu'est être français. Il m'a semblé qu'on avait réappris à s'aimer depuis mercredi dernier et qu'on aurait envie désormais d'y goûter sans retenue, de repartir différemment en laissant de côté tous ceux qui endommagent notre pays, lui inoculent le poison de la haine et de la division.
dernier, donc au comité de lecture, nous avions décidé de lire, de faire une lecture collective, une lecture collective. Nous avions demandé à nos lecteurs de lire L'amour et les forêts, parce que ce livre avait créé débat à la séance précédente. Certains adoraient et certains détestaient. Donc nous avons eu un échange intéressant mardi et nous allons vous présenter ce livre, donc L'amour et les forêts d'Éric Reinhardt. Alors, il s'agit d'une jeune femme cultivée, belle, intelligente, mère de deux enfants. Elle a tout pour être heureuse, sauf que son mari l'humilie quotidiennement. Alors, Éric Reinhardt intervient dans le roman. Il utilise un procédé d'autofiction ingénieux. Il nous annonce dès le premier chapitre qu'il a été ému par la très belle lettre d'une lectrice à la suite de la publication d'un de ses romans. Puis, il avait rencontré cette lectrice et décidé de faire un roman de sa vie. Alors, Bénédicte, c'est le nom de cette héroïne, enfin plutôt de cette anti-héroïne, sur un coup de tête, s'inscrit sur Mythique et elle rencontre un homme avec lequel elle s'accorde une journée de pur bonheur. Je ne vais évidemment pas vous raconter la suite de ce livre, mais ce roman est celui du renoncement quotidien, du harcèlement conjugal. C'est la révolte d'une femme, mais une révolte qui ne va pas jusqu'au bout. C'est un peu une Emma Bovary des temps modernes. Donc, on a choisi avec Nathanaël quelques petits passages pour illustrer ce roman. Et le premier passage, dans le premier passage, Bénédicte part rejoindre l'homme qu'elle a rencontré et son ami et son mari l'appellent à ce moment-là.
Comme par un fait exprès, au moment où elle allait sortir de sa maison, le téléphone sonna. Elle hésita à aller décrocher, c'était sûrement son mari. Mais dans cette hypothèse, il valait mieux qu'elle sache ce qu'il voulait. Le pire serait qu'il passe la journée à essayer de la joindre. Elle décrocha. C'était effectivement son mari. Il l'appelait pour s'excuser du comportement qu'il avait eu à son égard le matin même, avant qu'elle ne parte au lycée. « Pardonne-moi, je me suis laissée emporter. Mes paroles ont dépassé mes pensées. Si tu veux, on peut déjeuner. Je t'invite à déjeuner. »
Au motif que sa plus belle chemise, une Christian Lacroix turquoise à fines rayures, n'avait pas été repassée, alors qu'une réunion devait avoir lieu dans la matinée en présence du directeur régional, il s'était déchaîné sur sa femme, avec une violence verbale qu'il avait rarement atteinte jusqu'alors. Hors de lui, il avait envoyé sur son visage des postillons de haine, pratiquement des crachats. Ça, c'est pour montrer un peu le personnage du mari. Et le second passage... Bénédicte revient de son expédition amoureuse et elle essuie les remontrances de sa fille de 12 ans.
Tiens, tu as mis ta bague avec l'œil ? Comment ça se fait ? Tu la mets jamais normalement pour aller au lycée ?
Comme ça, une envie.
Pourquoi t'as pas prévenu que tu partais pour la journée ? Dans les Vosges, un jeudi, toute seule ? C'est quoi cette drôle d'idée ? Maman, j'ai peur.
Ne crains rien, mon amour. Je te raconterai un autre jour. Tout va bien se passer avec papa. Je vais lui expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai fait. Il comprendra, tout rentrera dans l'ordre.
Mais t'as vu dans quel état il est ? C'est quoi cette semaine pourrie ? Qu'est-ce que vous avez tous les deux ? Vous allez vous séparer ?
Bien sûr que non, mais enfin Lola, qu'est-ce qui t'arrive d'imaginer des choses pareilles ? Comment peux-tu penser un seul instant, papa et moi, qu'on puisse... Mais enfin...
Je veux que vous restiez ensemble. Je veux qu'il arrête de crier. J'en ai assez de cette ambiance de merde. J'ai peur. Il me fait peur. Fais en sorte qu'il se calme, qu'on redevienne heureux.
Bénédicte, ombre d'âne, serra la main de sa fille avec un long sourire navré, lèvres closes, ses yeux dans les siens.
J'ai peur qu'il te fasse mal. Il n'arrête pas de dire des choses atroces.
Il ne m'a jamais fait mal. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer.
Mais pourquoi t'es allée dans les Vosges sans prévenir personne ? Mets-toi à sa place. Tu en connais beaucoup des femmes qui partent comme ça, dans les Vosges, un jeudi, toute seule, soi-disant pour se promener, sous prétexte qu'il fait beau. Même moi, j'y crois pas, ton histoire de promenade. C'est dire.
Bénédicte, ombre d'âne, regarda sa fille sans répliquer. Elle tapotait doucement sa main avec la sienne, abasourdie par l'aplomb avec lequel elle avait exprimé cette opinion. « Tu ne m'as pas répondu tout à l'heure. Tu l'as fini ta rédaction ?»«
T'as mis ta bague des jours de fête. Tu portes ta plus belle robe et tes bottines préférées. C'est pas logique. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, maman ? Dis-moi la vérité. »«
Ça concerne ma vie de femme. Tu es trop jeune pour comprendre. On peut avoir besoin de réfléchir une fois de temps en temps. » Ce n'est pas interdit, et surtout ce n'est pas aux enfants de l'interdire à leurs parents. Allez au lit, il est l'heure, je vais aller voir ce que fait ton frère.
Ta vie de femme ? Je te rappelle que t'es aussi une mère, et que là, souris, t'as semblé l'oublier.
Je ne pense pas avoir jamais manqué à mon devoir de mère. Dépêche-toi, s'il te plaît, ajouta-t-elle en tapotant sa main avec insistance.
Eh ben, pas aujourd'hui.
Pardon ?
Je dis que t'as jamais manqué à ton devoir de mère. C'est ce que tu crois. La preuve, aujourd'hui, once again.
Il s'en fallut de peu que Bénédicte Ombredane ne giflât sa fille. Ce qui retint sa main fut que cette gifle eût été d'une violence disproportionnée, lourde de 12 ans d'abnégation, d'absolu dévouement. Donc dans ces passages, je crois qu'on a bien vu, on a bien saisi la nature des relations familiales. Et voilà, donc c'est un, alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Je crois que mes copines d'à côté, là, elles n'ont pas été aussi emballées.
Même si Chantal, apparemment, nous a trouvé d'autres extraits qui peuvent donner aussi un autre éclairage que ceux que nous avons choisis avec Sylvie.
En fait, j'ai trouvé ce livre très, très difficile dans la mesure où j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour réussir à le lire.
Moi aussi. J'ai eu beaucoup de mal avec le début de ce livre et vraiment qu'il ne me plaisait pas du tout. Bon, j'ai tout lu, mais je n'en garde pas un souvenir impérissable.
En fait, je trouve que l'écriture d'Éric Reinhart est tellement touffue, donne tellement d'éléments qu'on s'y perd. Et avant qu'on arrive à accrocher avec l'héroïne, entre guillemets, on est quand même drôlement embarrassé de tout ce qui nous donne comme élément de cette vie quotidienne très destructrice, mais pourtant pleine d'espoir. Et c'est ce qui m'a un petit peu alertée dans ce livre. Il n'est pas que négatif.
Enfin, moi, j'ai trouvé que Reinhart a une écriture extrêmement belle et au contraire très, très fine, très ciselée. Et je trouve que tous ces détails, justement, rajoutent à la compréhension du personnage. Par contre, je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'espoir.
Ah, quand même, c'est tout à fait au début du livre, je reconnais, mais quand on écoute ça, un jour, à force de le vouloir, elle parviendrait à être heureuse, semblait-elle vouloir dire. C'est sa sœur qui parle d'elle. Elle ne donnait aucune indication sur la nature des contrariétés rencontrées. J'ignorais ce qui l'empêchait d'être heureuse. Dans son entourage, qu'il soit professionnel ou familial, mais en revanche, sa volonté d'y résister, de les combattre, peut-être un jour d'en triompher, circulait dans les profondeurs de sa lettre avec incandescence. Ça n'est pas que triste, je trouve. C'est plein d'espoir, malgré les horreurs qu'elle traverse.
En fait, on a envie de la secouer, cette Bénédicte-là, parce que elle pourrait rencontrer le bonheur et elle fait tout. On a l'impression qu'elle fait tout pour l'éviter.
Bon, il faut dire que comme on a pu le lire dans les extraits avec Sylvie, elle est complètement sous l'emprise de son mari, qui est quand même, on peut le dire, un manipulateur.
Pervers
narcissique. Un manipulateur, et que les enfants, du coup, sa fille notamment, est complètement également sous l'emprise de cette ambiance et ne laisse aucun échappatoire. Enfin, moi, j'ai trouvé dans le dialogue à sa mère. Elle veut que ça reste comme avant. Elle n'a pas envie que sa mère se fasse frapper. Bon, elle ne s'est jamais faite frapper, mais c'est plus psychologique. Et en même temps, on a envie que cette petite, elle dise plutôt à sa mère, quitte-le.
Bon, à côté de ça, elle a 12 ans. Elle a 12 ans et comme beaucoup d'enfants, elle est très égoïste. Et ce qu'elle recherche, elle, c'est sa tranquillité familiale.
Oui, les enfants veulent toujours que leurs parents restent ensemble. Hein. Ça, c'est...
Et puis elle s'est construite dans ce milieu relationnel extrêmement pervers. Et finalement, elle s'est bâtie avec ça et elle reproduit simplement cette perversité dans la relation avec sa maman.
Et c'est une femme intelligente. Elle est agrégée de littérature. Voilà, elle pourrait effectivement, si elle le désirait vraiment, quitter son mari.
Oui, elle n'est pas dépendante financièrement.
Voilà. Par contre, moi, j'aimerais vous laisser sur la petite note de tout ce qu'elle rêve de pouvoir être avant ce fameux jour dans les Vosges. Elle était devenue une autre pendant quelques heures, entreprenante et intrépide, comme embarquée dans un long rêve ponctué d'imprévus. Et elle ramenait de ce périple un butin mémorable, un butin qu'en temps normal elle aurait considéré comme n'étant qu'une chimère réservée aux autres femmes. Un homme qui lui plaisait, un homme auquel en plus, selon toutes apparences, elle plaisait également, tombé du ciel en l'espace de 2 heures. Peut-être pendant ces 2 heures-là, était-elle tout simplement devenue elle-même, la femme qu'elle aurait été si sa vie avait suivi une autre voie.
Voilà, donc on vous engage à lire ce livre pour vous faire une idée par vous-même. Et voilà, on va clore le débat sur ce livre. Sur ce livre.
Nous sommes lancés, Claudine et moi, dans une aventure qui était la redécouverte d'un auteur qui s'appelle Léon Werth ou Werth. Son nom de famille s'appelle W-E-R-T-H. Et cet homme fut un témoin de la première moitié du XXe siècle. Alors, il a été complètement oublié, mais il a été une des figures intellectuelles pourtant majeur de ce premier XXe siècle. Il a fait partie un petit peu de toutes les aventures intellectuelles. Il a raté de peu le Goncourt en 1913 pour un livre « La Maison Blanche ». Il était le secrétaire et il a fini un livre d'Octave Mirbeau lorsque celui-ci était trop malade pour le finir. Et c'était vraiment, vraiment pas son aigre. Il était très fier que Octave Mirbeau, que son livre ait pu être fini par ce jeune brillant jeune homme qui était alors Léon Werth. Et surtout, il a donné quelque chose dans la littérature sur la guerre de 14-18, un des témoignages les plus frappants, dans 2 livres qui ont fait scandale à l'époque puisqu'il les a édités, il a pu les éditer en 1919 et qui sont issus de notes qu'il avait prises dans les tranchées. Car il s'est engagé, persuadé de faire la guerre à la guerre et que ça serait la dernière, alors qu'il était foncièrement plutôt anarchiste et antimilitariste. Et il en ressort, Claudine nous en a extrait des passages extraordinaires, une vision d'une grande acuité, d'une grande férocité sur tout ce qui se passait pendant la guerre, dans les tranchées, à mille lieues, bien sûr, de la victoire que l'on a fêtée post-14-18 et du poilu que l'on voulait toujours présenter courageux, et quiconque en fait s'en prenait à cette image officielle était mis au banc de la société. C'est même un miracle que son livre ait passé au-delà de la censure, mais n'a pas été sans critique. Mais je laisse la parole à Claudine.
Voilà, je vais donc vous lire des passages de Clavel Soldat. Donc Clavel, c'est Léon Werth, hein. Donc, ce que je vous lis là, c'est à peu près à la moitié du livre. C'est il y a 9 mois que Clavel est dans la tranchée. Réduit à la vie de troupeau, les hommes ont perdu le pouvoir de réfléchir. Il a 9 mois de tranchée, 9 mois où il a nourri de sa chair et de toute sa réflexion sa haine de la guerre. Les mouches sont partout. Il ne faut pas les oublier parmi les premiers rôles. Après les diplomates peut-être, mais bien avant les généralissimes. Les mouches communes, les vertes irisées des excréments, de la viande gâtée, des cadavres d'hommes et de rats, les grosses noires et les moucherons des caves collés au mur, comme de minuscules parcelles de suie, et les temps et les moustiques. Un soldat de la classe 15 raconte « Un de mes copains a reçu une balle à la cuisse. Tu parles s'il était content. J'aurais donné 100 francs pour être à sa place. » Le père Chameron a plus de 40 ans. Évacué pour une blessure à l'épaule, il est revenu après un mois de convalescence passé chez lui à Paris. Il est dans une prostration complète. Un jour, dans la tranchée, ému par son silence et sa tristesse, Clavel s'approcha de lui. Le père Chameron releva la tête et lui raconta son histoire. « Ben, y en a, ça leur fait rien. Ils vont chez eux et ils reviennent. Moi, quand j'ai vu ma femme et mes gosses, je me suis dit « Je peux plus. Tu sais que je tiens un petit commerce de chemiserie. » Mais c'est pas question commerce, le commerce allait comme avant, tout doucement. C'est que je ne pouvais plus. J'ai passé 2 jours comme ça. J'avais toujours mon mal au rein, tu sais, qui fait rigoler les majors ici. Je suis allée voir un médecin, il m'a bien examiné, il m'a dit « pas de lésions, bons organes, un peu de rhumatisme peut-être, prenez de l'aspirine ». Donc, rien à faire. Je suis rentrée chez moi. J'ai emmené mes gosses au but de Chaumont. Les gosses jouaient. Je me suis assise sur un banc. Un autre griffeton est venu, un jeune qui avait l'air guape. On a causé comme de juste. Lui, il était hospitalisé. Enfin, il me cause gentiment. Ça n'a pas l'air d'aller fort, vieux. Quand on revient de là-bas, tu sais... Lui, il avait été en Champagne. Enfin, et il finit par me dire « Mais si tu en as tant marre, t'as qu'à faire comme moi. » Je lui dis « Et comment tu as fait ?» Il me dit « Je me suis fait attiger. Moi, je l'ai pas fait exprès. Mais si tu veux, c'est pas dur. C'est pas la gonzesse pourrie qui manque. » Il m'explique que c'est toujours 15 jours au moins de gagner. 15 jours. Je voyais plus que ça. 15 jours. Ça me trottait dans la tête. Moi, un homme marié, un père de famille. Jamais j'ai été coureur. Jamais j'ai trompé ma femme, je peux le dire. Mais ça, c'était pour rester avec elle, avec les gosses, pour pas crever. Mais je me disais, si tu fais ça, tu vas la pourrir aussi. Alors, n'y pensons plus. Mais ça me trottait encore par la tête. Le malheur veut que j'entre chez mon pharmacien pour acheter de l'aspirine. On devient rusé dans ces moments. Je lui dis, j'ai un camarade qui a attrapé une sale maladie. Il est marié, ça va faire du joli. Mais le pharmacien me dit que s'il prend des précautions, il n'arrivera rien du tout. Il m'explique aussi les 3 sales maladies et le temps qu'il faut pour qu'elles se déclarent. Alors, mon vieux, j'ai été comme fou. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai été aux Folies Bergères. J'en ai choisi une toute moche, qui avait l'air à moitié crevée. J'ai été à l'Olympia. J'ai attendu 3 jours, 5 jours, rien du tout. J'ai été à Montmartre, au quartier latin, j'en ai levé, rien. C'était le 10e jour. Je me suis fait raccrocher dans la rue. Elle me disait, donne-moi un peu plus, je me déshabillerai. Oh, je m'en foutais pas mal qu'elle se déshabille, je suis pas coureur. Enfin, j'ai été rue de la Charbonnière, rue Montjol, pour 3 francs. 2 francs. 20 sous. Tu vois ce que ça pouvait être? Je peux dire que j'ai tout fait. J'en ai pris avec des chapeaux. J'en ai pris sans chapeau. Dans les beuglants, dans les cafés, dans les claques, dans la rue. Et je suis un homme marié, je suis pas coureur. Celles en chapeau étaient les plus pressées. Les autres, quelquefois, elles me donnaient comme une envie de pleurer parce qu'elles m'appelaient mon gosse, pauvre petit poilu. Moi, un vieux, ça me faisait quelque chose. Et les jours passaient et je les comptais 10, 20, 25, rien. C'est le cas de le dire que j'ai passé à travers les gouttes sans me mouiller. Et j'ai fait mieux. Je suis allée à la porte de l'hôpital Saint-Louis le jour de la consultation. J'ai suivi une môme qui sortait. L'air voyou, l'air crapule, l'air salope. Elle a pris les petites rues. Je la suivais. Je me suis approchée. Alors cette môme, cette nom de Dieu de môme m'a bien regardée. Elle m'a pris la main gentiment et elle m'a dit « Non, pas avec un poilu. Non, je ferai pas ça. Je suis attigée. » Et elle s'est mise à courir. Elle a pris le boulevard, déjà je la voyais plus. Je suis restée sur le trottoir comme un abruti. Et me voilà là. Et si tu me vois aujourd'hui, plus décollée que les autres jours, c'est parce qu'il y a 40 jours que je suis revenue. Et que je sais qu'après 40 jours, on peut plus compter sur grand-chose. Donc voilà, évidemment l'humour il est au quatrième degré, mais on est malheureux pour lui, il a rien attrapé alors que c'était sa seule chance de survie en fait, voilà. Donc je vais vous lire encore un petit peu de Léon Werth, mais c'est quelques années plus tard puisque c'est en 26. Oui.
Et où il part en Cochinchine.
En Cochinchine.
Voilà, parce que Léon Werth, donc c'était un homme multiple. Donc après avoir écrit donc ses deux premiers romans, il va participer à plusieurs journaux qui étaient importants à l'époque, Monde, la revue Europe, et il part, mais pas avec le dessein de faire vraiment un reportage. Il part pour aller se faire son idée. Et il est appelé, enfin il est invité par un homme, Paul Monin, qui guidera un petit peu plus tard André Malraux. Et grâce à lui, il va rencontrer des Vietnamiens, donc lui il dit des Annamites, puisque le Vietnam comme entité n'existe pas encore, qui vont lui montrer le vrai pays. Et il y a une ouverture d'esprit, mais que Claudine va nous expliquer, enfin va nous donner lecture et voilà, nous faire partager sur tout ce peuple et de surtout comment il est traité par les coloniaux, parce que l'on appelle les coloniaux, c'est-à-dire les Français de l'administration qui sont là-bas et qui traitent en fait les Annamites moins que des chiens. Voilà.
Alors en 26, les Annamites ne sont plus soumis légalement au régime du massacre. Si l'oppression est une règle, la brutalité n'est plus qu'une coutume. On ne tue plus un Annamite pour 40 francs. C'était le prix à payer jusqu'à maintenant pour un soldat qui tuait un homme. 40 francs de quoi payer l'enterrement. Mais les Annamites distinguent maintenant entre le colonial et l'européen. Le colonial a la certitude d'appartenir à la race supérieure qui est prédestinée, qui porte en elle la civilisation et qui doit en préserver le prestige. C'est un soir de Saïgon. Le ciel bat aux nuages détachés. Ce crépuscule d'orage est sans mélancolie. On est pris d'on ne sait quelle langueur dans une nature à la fois exubérante et indifférente, comme absente d'elle-même. Il apprécie beaucoup le charme du pays et des femmes. Les femmes sont magnifiques. Il admire les mains des femmes qui sont extraordinaires. Mais partout, il y a de la brutalité. Alors un coulis est brutalisé devant lui et Léon Werth s'étonne de sa réaction impassible. En fait, il n'y a pas de réaction, il se laisse faire. Et son ami Nin, donc c'est un ami de Cochinchine qu'il a appris à connaître récemment, il explique « Vous avez un mode de votre honneur qui est de rendre les coups. Atavisme ou tradition, nous avons avant tout le mépris de la violence. La dignité pour nous n'est jamais d'opposer la violence à la violence. La dignité, c'est de se vaincre, de se dominer. » Nous avons un proverbe qui dit « Si tu recules d'un pas, c'est un pas de gagné. Donc, ça changera parce que petit à petit, la haine va quand même s'accumuler dans le cœur de ces gens-là qui ont subi voilà, longtemps. Et bien sûr, ça va mal finir.
Tout à fait. 5 ans après, il y a la première révolte qui va être réprimée complètement dans le sang. Donc, à peine 5 ans après ceci. Et pourtant, Léon Werth était allé voir Daladier pour lui dire « c'est pas possible que ça continue comme ça ». Et Daladier lui a dit « oui, mais moi, je serai bientôt plus là, donc c'est pas grave ». Et en effet, ça finira encore plus tard par la guerre d'Indochine avec toutes les rancœurs qui, en fait, ont été accumulées.
Et les anamites, enfin certains, ceux que connaît Léon Werth, regrettent parce que les coloniaux ne sont pas tous les Européens. Et les coloniaux, il dit à un moment, Nine, si les coloniaux ne nous ont point apporté la culture d'Europe, on ne peut guère leur en faire grief, ils ne la connaissent point. Voilà, et ils regrettent de ne pas, dans leurs études, puisqu'ils n'étaient pas censés aller très loin dans leurs études, les écoles qu'on avait fait là-bas, et on ne leur apportait pas la vraie culture d'Europe. Et quand ils venaient, quand certains réussissaient à venir faire leurs études en France, c'était l'Européen n'était pas un colonial. Le colonial n'était pas vraiment un Européen, et ils auraient aimé connaître la culture française et la partager.
Et souvent, il la connaissait parce que, par exemple, son amie, Nine, dont parle Claudine, qui va mourir en internement, il va être emprisonné, qui était donc nationaliste, a créé un journal qui s'appelait La Cloche Fêlée. Et La Cloche Fêlée, c'est un des vers de Baudelaire. C'est le titre d'un des poèmes de Baudelaire. Donc on voit toute la culture et le raffinement de ceux qui arrivaient à intégrer les deux. Donc notre Léon Werth va écrire aussi dans l'entre-deux-guerres des romans que Claudine a lus, mais qui ont beaucoup plus vieilli.
Ah oui, ça, ils sont pratiquement illisibles. Alors, on y parle de grues et même de demi-grues. Donc là, il faut vraiment être au courant pour connaître ce demi-monde, justement, des demi-mondaines. C'est extrêmement particulier parce que c'est quelque chose qu'on a totalement oublié. C'est très curieux. Et voilà, on se dit, c'est bizarre qu'il écrive ça.
Et par contre, là où son intérêt reprend, et du coup, où il a connu toute une vague de rééditions, même si à la bibliothèque, donc on a certaines de ses premières éditions, mais où Viviane Amine, éditrice, l'a réédité, c'est lorsqu'il décrit la débâcle dans 33 jours. Lorsqu'il va écrire son journal, puisqu'il va rester caché pendant les 4 années de guerre, puisqu'il est d'origine juive et il va passer entre les mailles du filet, mais au jour le jour, il note tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit lorsqu'il est caché. Et il va assister, en 45, au procès Pétain. Et pour ses 3 autres livres, il est vraiment reconnu et intéressant pour les historiens. Il est aussi connu pour avoir été celui auquel le Saint-Exupéry a dédicacé le Petit Prince. Et la BPI lui a consacré un colloque, il y a à peu près 10 heures d'écoute sur la BPI par les plus grands spécialistes, parce que pour chacun de ces aspects dont on a essayé de vous parler ou de vous montrer... Eh bien, il reste vraiment très important sur le plan même stylistique. On a vu qu'il avait une très belle écriture, et sur le plan documentaire. Ouais. Donc, la rencontre que nous allons faire avec Claudine, Sylvie et moi se passera à la bibliothèque à 17h le jeudi 29 janvier. Chantal me dit de répéter ce qu'est la BPI. En fait, c'est la Bibliothèque publique d'information qui se trouve au Centre Pompidou et qui fait de multiples rencontres et auxquelles on peut accéder, même si nous sommes en province, sur leur site internet. Donc vous pouvez réécouter des émissions, des colloques qui se passent, et notamment les au moins 10 heures d'écoute sur Léon Werth. Voilà. Donc, bienvenue le jeudi 29 janvier à la médiathèque à 17h, où avec Claudine et Sylvie, nous vous présenterons cet auteur dans toute sa diversité, témoin du premier 20e siècle.
Alors, je vais présenter un tout autre sujet. C'est un livre de Xinran, Message de mère inconnue. Xinran est une journaliste et écrivaine chinoise. Xinran est un pseudonyme signifiant chinois volontiers, de bon cœur. Elle est née en 58 à Pékin et elle vit actuellement à Londres. Elle a écrit Funérailles célestes, qui je crois est à la bibliothèque, à la médiathèque. Message de mère inconnue, bien sûr, Ton histoire d'amour, Baguette chinoise, Mémoire de Chine, des livres qui sont tous des témoignages de vie de femme chinoise. Pendant son enfance, au moment de la révolution culturelle, elle est séparée de ses parents et elle rejoint avec son petit frère ses grands-parents qui vont l'élever pendant un temps. Et puis ensuite, elle va grandir dans l'orphelinat de l'armée et elle se considère orpheline. Devenue journaliste, elle tient pendant une dizaine d'années une émission de radio destinée aux femmes. Cette émission était très tardive, mais était très très écoutée et c'est à partir de cette émission qu'elle a pu écrire ses livres. Aujourd'hui, elle est établie à Londres et elle va donc publier plusieurs livres consacrés au sort des femmes. Elle est établie à Londres, mais elle explique qu'elle écrit ses livres en chinois, qui sont aussi traduits en anglais, et donc ensuite, pour nous, traduits en français. Donc ce livre, Mémoire de Chine, est très récent. Il date de 2010, parce que à sa lecture, on pourrait penser que c'était presque au siècle dernier. Alors, je vous lis quelques petits extraits. Dans Chinoise, j'ai parlé de ces femmes courageuses qui m'avaient raconté leur histoire à l'époque où je travaillais comme animatrice de radio. Mais il y avait des récits que je ne pouvais pas encore me résoudre à rapporter. Ils étaient trop douloureux et me touchaient de trop près. Je ne suis pas une femme particulièrement brave. Je suis juste une femme qui rêve de sentir la douceur d'une étreinte maternelle et ce lien d'amour et de dépendance qui unit une mère et sa fille pour la vie. Petit à petit, ce désir s'est infiltré en moi, jusqu'à commencer à dominer mes pensées jour et nuit. Et réveiller ces souvenirs risquait de rouvrir de vieilles blessures. Je regretterais ma propre mère plus que jamais et éprouverais encore plus d'amertume de n'avoir jamais reçu cette sorte d'amour. Lors d'une causerie prononcée à la Foire internationale du livre de Melbourne en Australie en 2002, quelqu'un m'a demandé « Xinran, quel est votre rêve ?»« Être la fille de ma mère ». Ai-je répondu. Alors Xinran, en dehors de ses livres, elle a fondé une association d'adoption entre la Chine et d'autres pays qu'elle a nommée Mother Bride of Love, MBL. Et son livre « Message des mères inconnues » est dédié à cette association et aux femmes chinoises contraintes d'abandonner leurs petites filles et aux petites filles qui ont été adoptées par des familles européenne ou d'autres pays, essentiellement européenne et américaine. Alors je vous lis une lettre qu'elle a reçue. « Cher Xinran, je suis la mère adoptive de deux superbes petites filles venues de Chine. Elles ont maintenant 11 et 9 ans. Elles sont toutes deux très heureuses dans notre famille et très aimées. Mais elles n'oublieront jamais non plus qu'elles ont une famille naturelle en Chine. Elles aiment leurs mères biologiques respectives et, comme vous, aimeraient beaucoup voir leur visage et entendre leur voix. S'il vous plaît, écrivez votre livre. Comme ça, elles comprendront le cœur de leur mère naturelle. Nous leur avons dit que nous chercherions leur mère naturelle si elles le désiraient, mais nous les avons également prévenus que de telles recherches pourraient rester vaines. Le message que vous envoyez de la part des mères naturelles pourrait bien être la seule chose qu'elles recevront jamais de leur famille chinoise. Ce que vous pouvez dire aux mères chinoises, c'est que leurs filles ne les ont jamais oubliées. Dans notre famille, les mères biologiques de nos filles sont honorées. Mes filles et moi prenons le putonghua, le mandarin standard. Nous sommes déjà allés deux fois en Chine avec nos filles. Elles adorent leur pays natal, tout comme leur père et moi. Nous sommes fiers d'être une famille sino-américaine. S'il vous plaît, transmettez notre affection, notre gratitude et nos hommages à leurs mères chinoises. Merci. Alors, donc je crois avoir déjà dit, mais je le répète, que son livre « Message de mère inconnue » est dédié à cette association et aux femmes chinoises contraintes d'abandonner leurs petites filles. Xinran, dans son travail de journaliste, a pu approcher des familles de tous niveaux, de femmes étudiantes, de femmes d'affaires, des sages-femmes, et toutes sont hantées par des histoires terribles de petites filles abandonnées dans la rue, à la porte des hôpitaux, dans les gares, ou noyées à la naissance parce que petites filles, et qu'il est impossible d'avoir une petite fille en premier nouveau-né. Récit extrêmement douloureux à raconter et à réécrire, mais Xinran a fait ce livre pour toutes les petites chinoises adoptées. Alors, je vous lis un autre petit passage. En 1989, donc c'est un petit peu plus ancien, je me rendis pour la première fois dans une région très pauvre sur la rive nord du cours moyen du fleuve Jaune. Tandis que j'interviewais les paysans du coin, une femme âgée d'une trentaine d'années, remorquant trois enfants dans son sillage, me demanda « Vous avez déjà arrangé un bébé-fille ?» Je crus tout d'abord que sa question avait quelque chose à voir avec la garde d'enfants ou les tâches ménagères. « Que dites-vous ? Arranger un bébé-fille ? Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Je pensais avoir une fois de plus mal compris l'accent local. « Vous ne savez même pas comment arranger un bébé-fille ? Et vous êtes une femme ?» Elle paraissait aussi perplexe que je l'étais moi-même. « Si vous ne savez pas ça, alors qu'est-ce que vous faites quand votre bébé est une fille ? Vous le faites faire par quelqu'un d'autre ou quoi ?»« Je n'ai pas de fille, » répondis-je. Je ne comprenais toujours pas. « Arranger un bébé fille veut dire s'en débarrasser à la naissance, » m'expliqua obligeamment le policier qui m'accompagnait. « Quoi ? Tu es une petite fille ? Mais pourquoi ?» À présent, je nageais en pleine confusion. « Vous ne pouvez pas ne pas arranger les bébés-filles, sauf si vous ne mettez au monde que des garçons. La famille de votre mari ne vous le pardonnerait jamais. Il vous mènerait la vie dure, il vous battrait et vous n'auriez jamais assez à manger. » La paysanne était visiblement stupéfaite qu'il y eût des femmes dans le monde qui ignoraient comment arranger les petites filles. Alors, ce livre est écrit pour que les petites filles adoptées sachent que leur mère, ce que leurs mères ont vécu, et pour leur dire qu'elles ont été aimées, ne seront jamais oubliées. Et les femmes chinoises font une grande confiance aux parents étrangers qui adoptent, et c'est aussi pour dire à leurs filles qu'elles peuvent grandir en paix, avec l'amour de leur mère et l'amour de leur famille adoptive. Et je vous lis un dernier petit passage. C'est l'histoire d'une jeune femme qui n'a pas pu garder sa fille. Beaucoup de gens croient que j'ai confié ma fille à des parents pour qu'ils l'élèvent et que je me consacre à l'adoption. Personne ne sait que si je travaille comme une folle, c'est en raison de ma propre fille et de mes autres petites comme elle. Des parents ont-ils fait la même chose que vous dans d'autres orphelinats, voulus-je savoir tout en espérant une réponse négative ? Elle me fixa d'un air quelque peu anxieux. « Vous voulez la vérité ?» « Naturellement, » répliquai-je en lui laissant un regard que je sentais plein de fermeté. « Ce ne sera qu'une petite partie de votre enquête, n'est-ce pas ?» répondit-elle avec une certaine hésitation. « J'espère que ça ne fera pas beaucoup d'histoire si je dis ça. » « Oui, il y a beaucoup d'employés d'orphelinat qui aident leur famille à la campagne à abandonner leurs bébés et à les faire adopter. » « Des gens qui travaillent dans des orphelinats aident d'autres enfants à abandonner leur nouveau-né ? Mais c'est contre nature et vous voulez dire que les personnes comme vous non seulement ne mettent pas un terme à cela, mais qu'en plus ils le gèrent ? Est-ce donc devenu une procédure normale ?» J'estimais qu'elle ne devait pas se dérober à ses responsabilités dans cette affaire. Elle s'emporta. « Mais qu'est-ce que la nature ? Qu'est-ce que l'amour maternel ? Qu'est-ce qui est normal ? Sur qui la norme prend-elle modèle ? Vous êtes allé dans ces villages ? Vous avez vu quelle vie misérable y mènent les filles ? C'est déjà une chance si elles arrivent à survivre. C'est pas moi qui exigerais le respect de la norme si ces petites ont la possibilité d'aller vivre dans des familles occidentales, d'y être heureuses et en bonne santé et de faire d'excellentes études. Cela vaut tellement mieux que de les voir subir le même triste sort que leur mère ou même pire. Elles seront considérées comme mille fois plus précieuses, tant sur le plan affectif que physique, si elles sont adoptées à l'étranger. » Mais cela laisse un trou noir dans le cœur des mères et des questions sans réponse dans celui de leurs filles. Les femmes chinoises sont les moins égoïstes du monde, me coupa-t-elle. Elles feraient n'importe quoi pour leurs maris et leurs enfants, endureraient n'importe quelle douleur, verseraient leur sang et leurs larmes pour s'occuper d'eux. La seule chose qui les console, c'est qu'un jour leurs filles comprendront peut-être que leurs mères les ont aimées et qu'elles ont payé cet amour d'un flot sans fin de larmes amères. Voilà, c'est un livre un petit peu difficile à lire parce qu'il raconte des choses terribles, mais je trouve que c'est un témoignage remarquable.
Nous avons une lectrice, Françoise, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui nous a présenté un très bel ouvrage, alors complètement différent des autres, hein, évidemment ce n'est pas un roman, c'est un essai. Ce livre s'appelle « Conjurer la peur », Sienne, 1338, essai sur la force politique des images. Il est écrit par Patrick Boucheron, édité au Seuil.
Alors Patrick Boucheron est venu lors des correspondances en 2014, et il a fait un débat, enfin il a fait une présentation qui était très intéressante. Alors ce livre pourrait être seulement un livre d'histoire de l'art qui présente et commente une œuvre picturale majeure, la fresque du bon gouvernement peinte à Sienne en 1338 par Ambrogio Lorenzetti. Une œuvre dont les détails ont fait l'objet de reproductions innombrables, ce qui fait que tout le monde la connaît.
Mais l'actualité immédiate qui est la nôtre renforce la portée du livre sur la scène de l'imagerie politique. Portée souhaitée par l'auteur qui choisit pour titre « Conjurer la peur, essai sur la force politique des images ».
La genèse de la fresque est simple. Nous sommes à Sienne à la fin du XIIe siècle. La famine et la peste font peser sur la ville une menace lourde d'insurrection et de mort. Le conseil des gouverneurs et défenseurs de la commune qui dirige la cité est en fin de mandat. Il passe commande à un artiste pour réaliser dans le palais communal, dans la salle même où se réunit le gouvernement, une peinture qui, selon les termes de la commande, utilise tous les moyens possibles pour la conservation, l'augmentation et la magnificence du régime en place. Donc la propagande est déjà là. Ambrogio Lorenzetti y travailla, donc à cette fresque, de 1337 à 1340.
Les fresques comportent plusieurs tableaux. L'allégorie du bon gouvernement, dans la ville et à la campagne. L'allégorie du mauvais gouvernement, dans la ville et dans les campagnes.
L'allégorie du bon gouvernement présente la sagesse, la concorde, la paix, la force, les trois vertus théologales qui sont foi, charité et espérance, les quatre vertus cardinales qui sont force, prudence, tempérance et justice.
Les effets du bon gouvernement dans la ville sont représentés par une ville magnifique en maçonnerie de pierre et de briques, remplie de tours, de palais, d'habitations, d'églises et de magasins de style typiquement siennois. La vie quotidienne s'y expose en toute harmonie.
Les effets du bon gouvernement à la campagne sont représentés par des champs bien cultivés, le transport des marchandises, le fauconnier qui part pour la chasse, des routes qui sillonnent les champs et collines, le va-et-vient incessant des hommes et des animaux.
L'allégorie du mauvais gouvernement présente la tyrannie, l'avarice, la vanité, la misère, des soldats en armes qui battent la campagne, ravagent les champs, pillent les habitations, autant civiles que religieuses.
Patrick Boucheron se livre à une analyse méticuleuse de chacune des scènes et l'œuvre prend au fur et à mesure de la visite une ampleur insoupçonnée au départ.
Mais surtout, comme il le dit dès l'introduction, il met en lumière la dimension politique de l'entreprise, depuis le rôle politique que constitue l'acte de la commande jusqu'aux positions prises par l'artiste dans la composition et l'exécution de cette œuvre.
C'est de cette image, nous citons l'auteur, c'est-à-dire la fresque de Lorenzetti, que je souhaite parler, mais moins pour en faire l'histoire ou pour la déchiffrer, que pour comprendre sa puissance d'actualisation. Je cherche à saisir cette stupéfiante force de persuasion qui vous happe et vous saisit à coup sûr. Parmi les nombreuses raisons qui la rendent si profondément actuelle, qu'il me soit permis de n'en retenir qu'une seule. Les murs du Palazzo Pubblico de Sienne s'embrument d'une menace qui pèse sur le régime communal. Les citoyens siennois sont fiers de leur république, mais celle-ci est en danger. Rôde le spectre de la seigneurie que le peintre figure comme un monstre revenu d'un passé que l'on croyait révolu. Lorsque manquent les mots de la riposte, on est proprement désarmé. Le danger devient imminent. Lorenzetti peint aussi cela. La paralysie devant l'ennemi innommable, le péril inqualifiable, l'adversaire dont on connaît le visage sans pouvoir en dire le nom.
Donc, Françoise conclut sa petite analyse de cette façon. Ce livre ne se lit pas comme un roman. J'aurais envie de dire qu'il se visite, comme on visite une exposition, en progressant de page en page, dans la complicité, avec la puissance de l'œuvre qui est à elle seule un véritable traité politique.
Et un lecteur qui s'était emparé de ce livre, mais qui n'avait pas l'explication de Françoise, a regretté juste une chose, il trouvait que, en fait, c'était un livre qui devait être accompagné d'explications. Donc, lui trouvait que, voilà, il aurait écouté longtemps notre lectrice lui décrypter ce livre, qui reste un livre donc d'art avec de très très belles reproductions et qui, s'il ne se laisse lire peut-être pas facilement, hein, c'est un essai, donc c'est pas facile toujours d'accès, il se laisse très facilement regarder car les reproductions sont superbes.
Il s'agissait donc de Conjurer la peur, Ciel 1338 de Patrick Boucheron, édité au Seuil. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous voulons simplement vous donner quelques petits rendez-vous culturels. Jeudi 29 janvier, Nathanaël vous en a déjà parlé tout à l'heure, à 17h.
À la médiathèque, donc la présentation avec Claudine et Sylvie de Léon Vers. Samedi 14 février 2014, remise des prix des médiathèques est un prix de livres, trois documents, trois romans. Et on remettra au vainqueur. Vous pouvez venir voter à la médiathèque et emprunter ces six livres à la médiathèque.
Cette remise des prix aura lieu à 10h le samedi 14 février.
Mardi 17 février 2015, comité de lecture avec pour thème Modiano, toute son œuvre littéraire, toute l'œuvre littéraire du prix Nobel de littérature.
Ensuite, le mercredi 11 mars, alors ça c'est organisé par Éclat de Lire, on fait de la pub pour nos partenaires, il y aura une battle poétique Place d'Herbès, vous pouvez vous renseigner auprès d'Éclat de Lire, ça sera à 18h.
Mardi 17 mars, ce sera un comité de lecture avec pour thème l'insurrection qui est le thème du printemps des poètes, mais nous on retient juste l'insurrection dans un sens très large, on peut y faire rentrer beaucoup de choses, n'hésitez pas à venir et à présenter vos romans.
Et le samedi 21 mars, à 10h30, aura lieu une déambulation poétique dans la ville, dans le cadre toujours du printemps des poètes, avec la classe de clarinette de l'école de musique et son professeur de clarinette, donc Valérie Farouf. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces rendez-vous à la médiathèque.
Merci beaucoup, merci à notre technicienne Emmeline, merci à nos lecteurs.
Et à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.